Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Connaissez-vous le tourisme de la dernière chance? Si la réponse est non, vous tombez bien, restez avec nous. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui le géographe Rémi Knafou. Rémi Knafou est spécialiste du tourisme et il est notamment à l'origine de la première équipe française de recherche dédiée au tourisme, l'équipe MIT, Mobilité, Itinéraire, Tourisme, et a été parmi les premiers à s'intéresser au concept de tourisme durable. Après son ouvrage « Réinventer le tourisme » publié en 2021, Rémi Knafou élargit sa réflexion et nous fait part de nouvelles propositions pour sauver nos vacances sans détruire le monde dans son nouveau livre « Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable ». Et dans l'épisode du jour, on va décrypter l'une de ces propositions, la sanctuarisation de l'Antarctique et l'opposition du chercheur à une pratique touristique des plus paradoxales, le tourisme de la dernière chance ou l'art de visiter des lieux en voie de disparition. Bref, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que l'épisode est vraiment passionnant et je vous laisse directement avec l'interview. Alors Rémi Knafou, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler du tourisme de la dernière chance, qui est notre problématique du jour. Alors je vous ai brièvement présenté en introduction, mais peut-être quand même est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur le chercheur que vous êtes et vos travaux dans le champ du tourisme.
J'ai commencé à m'intéresser au tourisme il y a fort longtemps, juste après avoir passé l'agrégation de géographie en 1971, lorsque j'ai entamé une thèse de doctorat d'État consacrée aux stations de sport d'hiver créées ex nihilo dans les Alpes françaises, des stations comme Avoria, Flaine, La Plagne, Les Arcs, etc. Thèse qui a donné lieu à un livre publié en 1978. Par la suite, tout en restant dans le domaine de l'approche géographique du tourisme, je me suis davantage tourné vers l'étude des lieux touristiques en général, ainsi que des touristes sans lesquels, évidemment, on ne peut comprendre ces lieux, avec un fil rouge que constituent l'observation et l'analyse des pratiques touristiques.
Aujourd'hui, on est ici pour parler donc d'une pratique touristique un petit peu particulière. On le verra assez paradoxal. Donc on va essayer de comprendre ces enjeux. C'est le tourisme de la dernière chance. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le tourisme de la dernière chance?
C'est une pratique touristique qui consiste à se déplacer pour aller voir des lieux qu'on sait ou qu'on croit condamnés à disparaître, que ce soit à moyen ou long terme, sous l'effet des changements globaux en général et du réchauffement climatique en particulier.
Quels vont être les territoires particulièrement concernés donc, par ce tourisme de la dernière chance?
Alors, les territoires concernés, ce sont ceux qui sont le plus sensibles au réchauffement climatique, c'est-à-dire en premier lieu les territoires englacés, les pôles, le pôle Nord et le pôle Sud, l'Arctique et l'Antarctique, les hautes latitudes en général, l'Islande, la Norvège, le Groenland, etc., où on voit que le trafic touristique augmente rapidement. Pour vous donner quelques indications chiffrées, les passagers des navires de croisière en Antarctique ont triplé entre 2000 et 2007. Les croisiéristes passant par l'Islande n'étaient que un peu moins de 8000 en 1990 et ils étaient environ 250 000 en 2016. Donc on a comme ça toute une série d'indicateurs qui montrent que ce tourisme vers des lieux qui changent rapidement est un tourisme à la mode en quelque sorte. Et du reste, en 2018, le magazine Forbes a fait du tourisme de la dernière chance l'une des principales tendances du voyage de l'année.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance? Depuis combien de temps à peu près on l'aperçoit?
Je crois qu'une des causes profondes, c'est en allant vers des lieux menacés de disparition, c'est qu'il se joue aussi, et ceci peut expliquer cela, notre propre destin et notre propre disparition qui est encore plus inexorable. Mais c'est un lien qui me semble expliquer de façon plus profonde l'intérêt pour ces lieux qui sont menacés de disparition et pour lesquels il commence à y avoir des manifestations tout à fait symboliques. En Islande, en 2019, on a posé pour la première fois sur la roche une plaque indiquant qu'à cet endroit-là existait un glacier qui a disparu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on appose une plaque pour marquer la disparition d'un glacier. Et un mois plus tard, en Suisse, un certain nombre de personnes se réunissaient en altitude pour marquer en quelque sorte les funérailles d'un glacier, le glacier de Pisolle, qui avait disparu. Donc voilà, c'est ça le contexte dans lequel nous sommes, c'est qu'en nous intéressant à la disparition d'éléments de la planète Terre, d'écosystèmes, ça nous renvoie à notre inexorable disparition, et que cela nous rappelle à quel point nous ne sommes que de passage sur la Terre, raison de plus pour avoir le pied léger et pour essayer de transmettre aux générations d'après des conditions les moins dégradées possibles.
Et qu'est-ce qui motive les touristes qui s'adonnent au tourisme de la dernière chance ?
Ce qui motive, semble-t-il, les touristes qui pratiquent cette forme-là de tourisme, c'est effectivement alerté par les médias, alerté par la publicité touristique, mais alerté aussi par les scientifiques qui nous informent sur l'évolution du climat. Bien, il s'agit d'aller y voir pendant qu'on peut encore voir certains sites menacés, que ce soit des sites donc en glacés dont je viens de parler, ou bien l'un des grands sites aussi qui est le lieu de ces pratiques touristiques, qui est la Grande Barrière de Corail en Australie, qui est cet ensemble de récifs coralliens. C'est une zone immense, qui est probablement d'ailleurs, qui est même sûrement le plus grand ensemble corallien du monde, avec un très grand nombre d'espèces de poissons, de mollusques, de coraux, qui est d'une variété absolument extraordinaire, mais qui se dégrade rapidement, puisque en 2012 déjà, les scientifiques estimaient que la Grande Barrière avait perdu plus de la moitié de sa couverture corallienne depuis 1985. Donc c'est une évolution qui se fait rapidement et dans laquelle les touristes jouent un rôle, puisque si on regarde comment les choses se passent dans cette Grande Barrière de Corail, on voit que le tourisme entretient un lien fort, organique et un peu pervers aussi avec ces récifs, puisque c'est l'argent des touristes qui contribue au fonctionnement du parc marin qui protège la Grande Barrière, mais en même temps, c'est la venue des touristes qui participe à la dégradation de cet ensemble tout à fait remarquable, au point que le gouvernement australien, inquiet à la fois de la dégradation de la Grande Barrière, mais aussi de la possible perte de revenus liés au mouvement touristique, avait réussi à supprimer des informations sur l'état malsain de la Grande Barrière de Corail dans un rapport de l'UNESCO de 2016, craignant que cela ne fasse fuir le tourisme. Donc on voit ce lien très complexe qui existe entre la conservation de la nature, quand elle est très menacée, comme c'est le cas là, dans cet exemple, et le trafic touristique.
C'est en ça qu'on peut dire que le tourisme de la dernière chance est une pratique paradoxale ?
Alors effectivement, c'est ce qui résume une caractéristique forte de ce tourisme, c'est que les touristes contribuent à détruire ce qu'ils sont venus admirer. Et le paradoxe est aggravé par le fait que c'est la conscience même de la disparition des écosystèmes qui implique l'urgence de s'y rendre. Et le phénomène a été particulièrement étudié dans les régions polaires, notamment en Antarctique. Donc on a là une situation, une sorte de spirale ou de cercle vicieux qui est tout à fait remarquable et qui s'inscrit dans ce désir qui s'est répandu depuis une vingtaine d'années ou un peu plus et qu'on a vu se développer beaucoup dans les médias, la publication de multiples listes de sites, de lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie. Parfois, on précise qu'il faut avoir vu avant de mourir. C'est ce qu'on appelle les bucket lists. Et donc, on a là un cercle vicieux qui s'installe, qui s'instaure, puisque c'est en allant visiter ces sites menacés qu'on contribue à aggraver la situation qui les a rendus menacés. Et donc, on favorise ainsi le déclin de quelque sorte de la beauté naturelle de la planète. Et cette spirale descendante de destruction ne fait qu'empirer à mesure que de plus en plus de gens réalisent que c'est leur dernière chance de visiter ces endroits tout à fait remarquables, effectivement. Donc on a une spirale descendante de destruction qui s'auto-entretient.
Et la question que je me pose, parce que donc ça fait quelques années que la recherche s'est intéressée à ce sujet, est-ce que des études ont montré, par exemple, que les touristes sont conscients de ce paradoxe? Est-ce que les touristes sont également conscients du dérèglement climatique, de ses impacts et de l'impact tout simplement que peuvent avoir leur voyage sur le lieu dans lequel ils se rendent?
Alors, on s'est intéressé effectivement dans quelques études, il n'y en a pas énormément, mais il y en a tout de même quelques-unes qui portent sur l'Antarctique, qui portent sur le Churchill, qui est un point privilégié d'observation des ours polaires au Canada, qui portent sur la Grande Barrière de Corail. Donc là, on a quelques enquêtes et auprès des touristes même pour savoir quelles étaient leurs motivations. Et dans tous les cas, on s'aperçoit qu'effectivement, la majorité des touristes enquêtés étaient venus pour voir ces lieux avant que ce qui motivait leur déplacement ne disparaisse et qu'ils étaient préoccupés par la question du changement climatique. Mais en revanche, c'est là qu'est aussi un autre paradoxe à propos des touristes, c'est que tout en étant informés, puisque c'est ce qui explique leur venue, ils ne font pas le lien avec leur participation à l'accentuation du phénomène auquel ils participent. Il y a une dissociation forte entre les croyances et attitudes des répondants face au problème et leur comportement individuel. Ils n'établissent pas un rapport direct entre leur venue et le changement climatique, et par exemple la dégradation des récifs, alors même que la plupart de ces touristes viennent de loin, voire de très loin. C'est-à-dire que pour venir visiter ces endroits, ils ont pris l'avion, des vols long courriers. Ils ont donc participé à l'émission de grandes quantités de gaz à effet de serre. Pour vous donner juste une indication chiffrée à ce sujet, aller de Paris à Ushuaia, c'est-à-dire au sud de l'Argentine, qui est l'endroit d'où appareille une bonne partie des navires qui vont aller vers la péninsule antarctique. Déjà, l'aller-retour en avion, c'est 26 000 km et c'est 4 tonnes 6 en classe économique d'émissions de gaz carbonique. Donc, cette participation à la dégradation du climat par l'acte et la décision individuelle d'aller vers des lieux éloignés, les touristes qui participent à ce mouvement n'en ont aucunement conscience. Ils ne font pas le lien entre leur venue, leur déplacement, les modes de déplacement qu'ils ont utilisés et le phénomène général de réchauffement climatique.
Concrètement, quels sont les impacts, hormis donc l'empreinte carbone émise par le transport, de cette pratique sur le climat, sur la biodiversité et sur les habitants qui habitent dans cette destination?
Alors, les impacts sont multiples. Alors, il y a déjà les rejets de gaz à effet de serre. C'est très important et ça concerne les vols aériens, puisque je le répète, la plupart de ces espaces sont éloignés des marchés émetteurs de touristes. Ensuite, il y a, quand les touristes sont sur place, il y a des rejets, de détritus, de pollutions diverses, de suie noire, par exemple, émis par la combustion des carburants par les navires, sur la neige et sur la glace. Plus le mouvement touristique s'intensifie et plus il y aura de risques d'accidents, aussi bien de bateaux que d'avions, avec des pollutions beaucoup plus importantes. Il y a des atteintes à la biodiversité. Il y a, avec l'introduction d'espèces halogènes dans des milieux préservés, quand c'est le cas, il y a des piétinements quand il y a de la végétation, donc l'introduction d'espèces non indigènes dans l'écosystème. Il y a des gênes à la vie animale. Et alors, à la reproduction en particulier, c'est très net dans l'Antarctique, où les rares sites côtiers libres de glace sont ceux qui offrent à la fois des habitats pour la faune et en même temps des sites de débarquement pour les touristes. Donc, il y a une compétition pour l'espace qui naît entre la faune locale et la population des touristes. D'autant plus que pour bon nombre d'oiseaux, ce sont des lieux de nidification et comme en plus l'été austral est très court, eh bien, il y a une compétition là aussi pour utiliser ce temps favorable à la reproduction, qui est en même temps la compétition avec la venue des touristes, puisque c'est uniquement dans l'été de l'hémisphère sud que le mouvement touristique peut se faire, par exemple. Donc voilà, ça fait partie des impacts nombreux. Sur la population, la situation est différente, puisque la plupart des lieux qui sont fréquentés dans le cadre de ce tourisme de la dernière chance sont des lieux non habités. Donc, à ce moment-là, le problème des retombées économiques ne se pose pas. Alors, il y a quand même quelques exemples, on en connaît. Et quand il y a lieu habité, en général, la population, même si elle est souvent assez peu nombreuse, par exemple, Churchill, dans le Manitoba canadien, qui est ce point d'observation qui se présente comme la capitale mondiale de l'ours polaire, Churchill, c'est 900 habitants. Et aujourd'hui, ils ne vivent pratiquement que du tourisme, de touristes venus de plus ou moins loin pour observer les ours polaires. Donc, il est évident que dans ces conditions, la population est favorable à la venue des touristes. Même chose pour les Galapagos, où d'ailleurs le flux touristique a été davantage limité qu'il y a quelques décennies, mais c'est pas très habité, mais c'est quand même, il y a plusieurs milliers d'habitants, et la population, évidemment, y trouve ses revenus. Donc, quand il y a population en général, elle est favorable. Mais les grands enjeux, ce sont des espaces très peu habités. C'est le cas des espaces polaires, c'est le cas de la Grande Barrière de Corail, et puis de quelques autres sites dont on parlera si vous voulez.
Je reviens sur l'exemple de Churchill, parce que j'avais interviewé il y a quelques mois une spécialiste de l'écotourisme animalier qui nous expliquait qu'en rentrant en contact avec cet écosystème en perdition, les ours polaires, la fonte des glaces, c'était là que les touristes se rendaient compte des conséquences du réchauffement climatique. Et qu'en plus devant donc cette belle opportunité financière qu'offre le tourisme, les habitants se seraient mis à protéger les ours polaires pour que cet écotourisme se pérennise et que donc la chasse à l'ours polaire s'était arrêtée. Et donc je me demandais si le tourisme de la dernière chance pouvait aussi avoir des impacts positifs sur l'environnement.
Alors, dans le cas que vous citez, c'est exact. Effectivement, la population qui vivait de la chasse à l'ours polaire préfère aujourd'hui organiser des visites et donc concourt à préserver l'ours polaire. C'est tout à fait vrai. Mais ça n'est pas un cas général, puisque, je répète, dans la plupart des cas, il n'y a pas de population permanente. Et donc, ce sont des intrusions dans des espaces en général très protégés. Il ne s'agit pas d'évaluer les retombées économiques, l'intérêt principal. Mais dès qu'il y a population, on est en face de situations beaucoup plus complexes, parce qu'il y a là des arbitrages à faire entre l'intérêt de la protection de l'environnement et l'intérêt des hommes qui font partie aussi de l'environnement et qui est évidemment à prendre en compte.
D'ailleurs, de votre livre, vous parlez de sanctuariser l'Antarctique. Parce que pour vous, vous expliquez que ce serait la zone la plus facile à sanctuariser puisqu'il n'y a pas d'habitants globalement. Est-ce qu'on pourrait penser à des mesures qui permettraient de mieux réguler et mieux réguler ce tourisme de la dernière chance, voire peut-être même de l'interdire, comme cette sanctuarisation de l'Antarctique?
Alors, la sanctuarisation de l'Antarctique, c'est une des propositions effectivement que je fais pour des raisons multiples. Parce que c'est le seul continent encore inhabité, c'est aussi le seul continent qui ne soit pas approprié par des États, même s'il y a des revendications territoriales de plusieurs États. Donc, sanctuariser l'Antarctique serait adresser un message symbolique fort à l'ensemble de la planète touristique pour montrer qu'il est absolument nécessaire d'aller vers un modèle touristique beaucoup plus sobre et beaucoup plus respectueux des équilibres et permettre de prolonger dans les meilleures conditions ou dans de moins dégradées conditions l'habitabilité de la planète. Donc ça, c'est un objectif fort. Ça ne veut pas dire que ce soit un objectif facile, parce que le tourisme vers l'Antarctique, je l'ai déjà mentionné, augmente rapidement. On a passé le cap des 72 000 touristes récemment. On atteindra les 100 000 bientôt. C'est un tourisme par bateau. Il y a en novembre 2021 un premier avion civil, un Airbus A340, s'est posé pour la première fois sur le continent antarctique pour montrer que la chose était possible, donc ce qui pourrait augurer de vols commerciaux vers l'Antarctique. On voit bien qu'il y a là une pression touristique qui va aller s'accentuant et qui pose beaucoup de problèmes, d'autant plus de problèmes que Les armateurs qui envoient des touristes vers l'Antarctique utilisent des arguments tout à fait discutables, puisqu'ils mettent en avant à la fois le fait qu'ils concourent à la production de connaissances scientifiques, ce qui n'est pas faux objectivement, puisque certaines de ces compagnies mettent à disposition de chercheurs quelques cabines. Donc, ce sont des conditions privilégiées pour aller faire de la recherche en Antarctique. Ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, c'est que ces expéditions, comme on les appelle, vers l'Antarctique, sont censées aussi former à la sensibilité environnementale les touristes qui les fréquentent. Or, un des enseignements des enquêtes qui ont été faites, c'est que ces touristes qui vont vers des lieux du tourisme de la dernière chance n'ont pas, je l'ai déjà dit, une réelle conscience de leur impact et ne reviennent pas pour autant davantage formés à la nécessité de protéger la planète. De ce point de vue, les enquêtes qui ont été faites sont sans appel. Alors, pour finir de répondre à votre question, à côté de l'interdiction, qui est celle que je propose pour l'Antarctique, parce que c'est un cas tout à fait extraordinaire, et il y a par ailleurs des espaces de taille plus limitée qui sont déjà l'objet d'interdits. Il y a là où il y a des pressions touristiques vers des sites extraordinaires, et il y a des politiques de régulation, de quotas qui ont été mises en place avec plus ou moins de contraintes. Par exemple, pour n'en citer qu'un, il y a un site extraordinaire en Arizona qui est un site de relief avec des couleurs extraordinaires allant du beige à l'ocre, et c'est une douceur, un relief d'une douceur absolument extraordinaire, qui est très fragile et qui est très convoité. Et donc, les autorités qui gèrent le site ont décidé qu'il n'y aurait que maximum 64 personnes par jour qui pourraient fréquenter le site en question. Et à partir de là, on met sur pied un système complexe, aussi bien de réservation en ligne que de loterie. Et donc, tous les jours, il y a quelques places d'entrée qui sont offertes à la loterie pour les gens qui sont sur place et qui attendent de voir si leur billet est tiré au sort. Voilà. Donc, c'est une des manières de réguler le tourisme dans des sites fragiles et très convoités.
Ce que je vous propose maintenant pour terminer l'épisode, vu que là on a une vision de ce que c'est le tourisme de la dernière chance, c'est d'ouvrir sur le tourisme durable plus globalement pour connaître votre point de vue en tant que chercheur. Surtout que je sais que vous êtes assez critique au regard du tourisme durable. Vous dites qu'il est souvent largement utilisé comme un outil marketing et que paradoxalement ça aurait contribué à créer des nouveaux lieux touristiques dans des espaces protégés pour répondre à des nouvelles tendances de reconnexion à la nature, de recherche d'authenticité, pour le dire globalement. Et du coup, j'aimerais bien savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus pour reprendre le titre de votre livre, Comment réinventer le tourisme et sauver nos vacances sans détruire le monde.
Alors, effectivement, je proposais d'entamer une quatrième révolution touristique qui pourrait se résumer en très peu de mots. Il s'agit d'inverser un mouvement historique qui est celui du toujours plus et toujours plus loin, puisque c'est ça la logique du tourisme qui vise, enfin, du ce que j'appelle le système touristique mondialisé, qui vise à pousser ses avantages de plus en plus loin, et même à un point tel que la planète touristique est maintenant plus étendue que la planète où vivent les hommes, puisque les bateaux en particulier, les avions aussi secondairement, mais surtout les bateaux permettent d'aller dans des endroits inhabités, non mis en valeur, et que l'objectif, donc, en proposant cette quatrième révolution touristique, c'est d'arriver à construire un rapport plus responsable avec la planète qui nous héberge, de façon à conserver son habitabilité. C'est ça l'objectif principal.
Vous dites quatrième révolution touristique, quelles ont été les trois premières?
Alors, les trois premières, la première, ben, c'est d'abord l'invention du tourisme par l'Europe du siècle des Lumières, l'Europe du Nord-Ouest du siècle des Lumières. Donc, c'est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que le phénomène est né. Et c'est également à cette période-là, fin XVIIIe, qu'on a commencé à appeler touriste la personne qui se déplaçait pour son plaisir. Et le mot tourisme est né dans la foulée, puisqu'on a commencé par qualifier d'abord la personne avant de qualifier l'activité économique qui correspond au déplacement de ces personnes. Donc ça, c'est la première révolution touristique. Et la deuxième révolution touristique, c'est celle déjà du développement du tourisme sur plusieurs continents, puisque au départ, c'était l'Europe, et avec parallèlement à d'autres continents, puisque ça a d'abord été l'Amérique du Nord, avant de diffuser vers d'autres parties du monde, avec une augmentation des flux touristiques, puisque dès le 19e siècle, la fin du 19e siècle, les flux touristiques étaient déjà importants et internationalisés. La troisième révolution touristique, c'est celle qui est née à partir de la pré-Seconde Guerre mondiale, de ce qu'on a appelé le tourisme de masse, c'est-à-dire lorsque le tourisme s'est diffusé à la fois à l'ensemble des continents et à une partie croissante des catégories sociales, puisque au départ, c'était des catégories les plus privilégiées de la population, et puis ensuite, d'autres catégories, classe moyenne et classe populaire, ont commencé à accéder au tourisme, en particulier d'abord en Europe. Donc, cette troisième révolution touristique, c'est celle dans laquelle nous sommes encore à l'heure actuelle, qui a commencé à déjà évoluer, puisqu'on est passé d'un tourisme de masse global à un tourisme de masse individualisé, dans la mesure où de plus en plus de touristes maintenant ne voyagent plus en groupe, organisent eux-mêmes leurs voyages, sont autoproducteurs de leurs voyages grâce à Internet en particulier. Mais le point commun à ces trois révolutions successives, c'est d'aller toujours plus loin, d'aménager toujours plus, de créer toujours plus de lits touristiques. Or, ce que je propose dans mon livre, puisque le livre que j'ai écrit en 2020 et celui qui va sortir dans quelques jours, est un livre qui s'inscrit dans une collection où on demande aux auteurs de consacrer les deux tiers de leur texte à des propositions pour que les choses évoluent. Eh bien, la première des propositions qu'on peut faire, qui est une proposition de bon sens, c'est cesser de construire de nouveaux lits touristiques, sauf pour remplacer des existants qui disparaissent, parce qu'il y a aussi des obsolescences, évidemment. Mais globalement, on peut dire aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle mondiale, on a pour l'instant suffisamment de lits et il faudrait davantage s'employer à les remplir un peu mieux. Autre préconisation, se préoccuper des moyens d'accès. Les destinations touristiques ne peuvent pas se désintéresser de la manière dont viennent à eux les touristes. Et donc, par toute une série de mesures, en particulier de tarifs, favoriser les touristes venant par des moyens décarbonés lorsqu'ils existent, comme le train, par exemple. Être plus sobre, voyager plus léger, limiter les voyages aériens, en particulier au long cours, paraît une mesure tout à fait nécessaire, à la fois pour des raisons de changement climatique, mais aussi parce que à moyen terme, la disponibilité de ressources énergétiques va devenir plus problématique. Et puis, j'en ai déjà parlé, protéger davantage les espaces menacés, protéger complètement certains territoires lorsqu'ils sont encore inhabités, hors du champ de convoitise du système touristique.
Et vous parlez aussi d'un tourisme réflexif. Vous expliquez que c'est un tourisme où le touriste se questionne sur ses pratiques touristiques, sur l'offre touristique globale et où il va chercher le sens qu'il peut donner à ses vacances. Moi, ce que je me demandais, c'était est-ce que vous voyez le tourisme réflexif comme, entre guillemets, le nouveau tourisme durable ou une nouvelle étape du tourisme durable plus adapté aux enjeux actuels?
Alors, effectivement, c'est une étape adulte, en quelque sorte, puisque c'était un des moyens de mettre en œuvre la durabilité dans le tourisme. La durabilité dans le tourisme, elle est problématique. C'est d'ailleurs un des objets du livre que je sors maintenant, c'est de regretter que le tourisme durable ait été un peu galvaudé, puisque ça fait quand même plusieurs décennies qu'on en parle. La naissance du tourisme durable, la charte du tourisme durable, c'est en 1995. Donc depuis, il y a eu certes des progrès qui ont été faits, mais pas suffisamment par rapport aux objectifs à remplir. Donc le tourisme réflexif, qui invite effectivement le touriste à être conscient de ses responsabilités au sein de la terre sur laquelle nous vivons, c'est une manière d'adopter des comportements plus responsables, plus sobres, en relation avec les objectifs qu'on peut se fixer. Parce que l'une des caractéristiques, pour en revenir brièvement, du tourisme de la dernière chance, effectivement, c'est un tourisme qui, soit par ignorance, soit par convenance, privilégie l'intérêt égoïste de la personne. Finalement, c'est après moi le déluge, puisque, facteur aggravant, on a vu que les touristes qui participaient à ce type de tourisme vers ces lieux menacés étaient en même temps conscients de ce qui nous attend, et en particulier du dérèglement climatique. Ne pas vouloir tenir compte de ça, c'est mettre en avant la satisfaction d'un besoin personnel, temporaire, et ne pas savoir établir, et c'est bien là l'un des enjeux fondamentaux, c'est ne pas savoir, et on voit bien que ça c'est ce que les enquêtes montraient finalement, c'est qu'une grande partie de ces touristes étaient incapables de penser le lien qui existe entre leur action, leur décision d'aller dans certains lieux et les changements que cela induit. Tout simplement parce qu'ils se pensent à leur échelle, qui est très réduite, et n'ont pas conscience que quand cette décision est prise par plusieurs milliers de personnes, ça produit ça concourt à produire des effets, comment dire, pathogènes sur l'ensemble de la planète. Donc on a là une situation perverse qui est tout à fait préjudiciable lorsqu'on n'est pas capable de penser le lien entre aussi bien l'échelle de la personne et l'échelle planétaire, et on n'est pas capable de penser non plus le lien entre ce qui se passe maintenant, ma décision d'aller vers un lieu, et ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans, quand effectivement toutes ces actions cumulées finiront notamment par l'émission de gaz à effet de serre à concourir à l'aggravation du réchauffement climatique. On a là quelque chose qui est une vraie préoccupation et qui rend un peu pessimiste pour l'avenir, parce que quand on voit que même des gens qui sont informés n'en tirent pas nécessairement les conséquences, on voit la nécessité qu'il y a pour aussi bien les personnes que pour les destinations touristiques à essayer de développer à côté des interdictions ou des régulations, une responsabilisation de la personne, notamment via les leviers du tourisme réflexif.
Le tourisme réflexif, c'est un tourisme qui va encore plus loin que le tourisme durable d'aujourd'hui dans la responsabilité individuelle du touriste.
Oui, c'est quelque chose qui entend dépasser l'obstacle mental que je dénonçais, c'est-à-dire la difficulté de penser le lien entre l'échelle de la personne et l'échelle de la planète, la difficulté de penser le lien entre le court terme de notre décision et le long terme des conséquences. Ça veut dire créer les conditions pour que non seulement on s'informe, mais qu'on tire des conséquences de l'information qui est la nôtre. Quand on constate, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos de l'enquête de la Grande Barrière de Corail, quand on constate que les gens qui sont allés là-bas parce qu'ils avaient le sentiment que c'était un espace remarquable qui était en train de disparaître, ils y sont allés parce qu'ils étaient sensibilisés à la chose, qu'ils savent qu'il y a un lien entre cette disparition et le réchauffement climatique. En revanche, ils ne savent pas établir le lien entre leur venue et ce phénomène-là. Ils ne se pensent pas, moi pour certains je pense qu'ils le font, mais à ce moment-là, ça peut être simplement de la mauvaise foi, mais il semblerait d'après les enquêtes que, assez sincèrement, ces gens-là n'étaient pas au courant que le fait de prendre un avion concourait à aggraver la situation de ce qu'ils étaient venus voir disparaître.
Bon, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous pour parler du tourisme de la dernière chance et puis du tourisme durable d'une manière générale. Pour résumer, le tourisme de la dernière chance, pour conclure un peu, c'est une pratique un peu cynique, un peu insouciante, où des touristes se pressent pour visiter un lieu avant sa disparition, tout en accélérant sa disparition par le simple fait de leur voyage et de leur présence sur place. Pour terminer, je demande toujours la même question aux invités. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs ?
Alors, dans le champ qui nous intéresse, effectivement, j'aurais un message à faire passer, puisque Je suis critique vis-à-vis du système touristique mondialisé qui nous vend de plus en plus de destinations lointaines et de produits, tout ça pour nous distinguer des autres, puisque ce tourisme de la dernière chance relève finalement aussi de la catégorie qu'on appelle du tourisme hors des sentiers battus. Ce qu'on vend aux gens, très cher d'ailleurs, c'est de la distinction, ne pas faire comme les autres. Mais le message que je voudrais adresser, c'est que pour ceux qui ont la chance d'avoir les moyens et l'état physique de faire du tourisme, ben, il existe un chemin de crête. Alors, il est peut-être assez étroit, mais il existe entre deux choses qui me semblent probablement à éviter. D'une part, éviter de renoncer au voyage, à tout ce que cela permet pour s'ouvrir sur les autres, hein, sur le monde, pour se comparer, pour se cultiver. Et puis d'autre part, éviter aussi de ne considérer que son seul intérêt égoïste sans prendre en compte l'impact de ses choix sur la planète. Donc, je crois qu'on peut continuer à faire du tourisme pour prendre soin de soi, pour s'ouvrir sur d'autres cultures, sans contribuer démesurément à accroître le réchauffement climatique. Et ce que j'appelle le tourisme réflexif, qui privilégie des solutions plus sobres, moins impactantes, se souvenir que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes sur une planète peuplée de 8 milliards d'habitants, avec lesquels on est obligé de collaborer, de partager, se souvenir que, au-delà des considérables inégalités de toutes sortes, nous avons un destin commun, celui d'être embarqués sur la même planète, en quelque sorte, la planète Terre, sur laquelle nous avons réussi par notre intelligence à créer de la richesse, de la sécurité pour une bonne partie du monde, à améliorer les conditions de vie d'une bonne partie des habitants, mais nous avons aussi réussi, si j'ose dire, à commencer à compromettre l'avenir de l'humanité si nous poursuivons sur la même lancée. Donc, voilà ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut continuer à faire du tourisme, mais pas nécessairement vers tous les lieux, pas nécessairement de développer ce projet totalitaire qui veut que toute la planète devienne irrémédiablement touristique. Il faut laisser, je crois, un peu de place aux rêves. Ben bien, écoutez, sachons avoir cette sagesse dans l'intérêt de tous et en particulier des générations qui nous suivent.
C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.